Eh bien, merci d'être venus aussi nombreux. Nous allons donc commencer cette discussion avec mes deux voisins, François Rouillet qui se trouve au bout, Romain Lucaso à ma droite. On va commencer par une petite présentation de chacun. Qui commence? On tire au sort. Allez.
Allez.
Honneur à François.
Il faut appuyer où? Ça marche? C'est bon?
Oui.
Oui. Alors, François Rouillet, citoyen suisse, pharmacien, écrivain, illustrateur de science-fiction.
Romain Lucaso, donc je suis français.
Citoyen.
Je suis citoyen français, tout à fait. Je ne suis pas déchu de mes droits. Donc moi, je suis l'auteur d'un unique roman en deux tomes, pour l'instant, que j'espère, qui s'appelle L'Atium, et qui est un space opera. Et par ailleurs, hors de ces activités qui sont minoritaires dans mon temps, je suis consultant.
Alors, la question ultime, quelle est votre relation à la science-fiction? Pourquoi la science-fiction? D'où est-ce que ça vient, le goût?
C'est toi qui commence.
c'est dégueulasse de commencer par la question. Alors moi, j'ai toujours lu de la science-fiction. Je parle depuis mes 14-15 ans. Il se trouve que je suis ancien élève de Normalsup, et à Normalsup, il y a un truc magnifique qui s'appelle la SFTech, qui est un local dégueulasse, dans lequel il y a une mezzanine pourrie et un canapé complètement défoncé, mais surtout une collection de bouquins de science-fiction, dont un certain nombre ont été offerts par un certain monsieur Klein, pour mettre comme ça, dans les années 70-80. Et donc il y a une fabuleuse collection de science-fiction. Donc je me suis bouffé tous mes classiques comme ça. Et ensuite, j'ai enseigné un peu les sciences politiques et la philo. Je suis parti de la fac. Et là, je me suis dit, puisque je suis parti de la fac, que j'ai plus un rôle d'éducation sérieux à l'égard de mes semblables, je peux commencer à écrire n'importe quoi et à dire des conneries. Et donc j'ai commencé à faire de la science-fiction. Donc j'ai fait une dizaine de nouvelles de SF qui étaient en général des pochades ou des plaisanteries, qui ont été publiées par de très méritantes fanzines, très méritantes à supporter ce genre de délire, que je remercie avec une émotion énorme, en particulier les sympathiques personnes de présence d'esprit. Et ensuite, je me suis lancé dans un roman, dont on parlera peut-être après, tourne aussi autour de la question de... Enfin, dont un des sujets est la question de comment est-ce qu'on fait de la science-fiction quand on est francophone et pas anglo-saxon.
Alors, mes rapports avec la science-fiction peuvent être éclairés par une anecdote quasi psychanalytique. Ma grand-mère a gardé, semble-t-il, le tout premier dessin que j'avais fait, et s'intitulait « Les animaux dans la lune ». J'avais déjà dessiné les animaux dans la lune. Le problème, c'est que la lune avait 7 faces, parce que j'avais dessiné 7 lunes avec des dizaines d'animaux par lune. Bon, je ne vous dirai pas à quoi ils ressemblaient. Donc, ça donnait déjà le ton. Tout le reste a été à l'avenant. Dans mon enfance, j'ai dévoré tout ce qui ressemblait à la science-fiction, de Bob Moran au BD de Jacobs. Après, il y a eu l'époque Sadoul et j'ai lu, dont j'acquérais chaque fois que j'avais un petit peu d'argent de poche un volume, j'augmentais ma collection, etc., etc., et découvrir ensuite fiction. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à la science-fiction aussi. En Suisse, nous avons la chance d'avoir la Maison d'ailleurs, musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires, fondée par Pierre Versin. Et j'ai eu quelques contacts avec Pierre Versin assez tôt, déjà pendant mon adolescence, au téléphone, et puis après, directement chez lui, dans sa collection. Et j'ai commencé à m'approcher d'un peu mieux le vaste domaine qu'est la science-fiction et ses racines dans le passé et ses rapports avec d'autres genres de culture, avec l'utopie, avec d'autres. Et finalement, j'ai commencé à écrire un petit peu et surtout à en dessiner. Il y a eu toute cette période où la Maison d'ailleurs a été rouverte au public dans les années 80. Et à partir de là, j'ai joué un certain rôle de promotion pour le musée, et j'ai participé à pas mal d'activités autour du musée, des activités associatives, des activités aussi créatrices et éditoriales. Et ensuite, j'avais écrit quelques nouvelles. Et puis, ensuite, j'ai publié un livre d'illustration à la Talente. J'ai publié un essai sur les drogues et la toxicomanie dans la science-fiction chez Ancrage. J'ai publié également une petite encyclopédie un peu déjantée sur la science-fiction aux empêcheurs de penser en rond. Et chose que j'ai faite dans le domaine éditorial, j'ai publié un roman aussi en deux tomes, premier roman, Metakin, à la Talente aussi.
Et bien justement, parlons de ces romans qui sont concomitants, vous n'avez pas fait exprès, ni l'un ni l'autre. D'où débute la création de ces romans? Ça commence quand? Alors, pour Passion.
D'un point de vue biographique ou d'un point de vue cosmique? Je ne suis pas le seul à pratiquer les drogues ici. D'un point de vue scriptural, j'ai publié une dizaine de nouvelles de science-fiction, donc, comme je disais, et ensuite il se trouve qu'il y avait un appel à texte, je ne sais plus du tout pour quelle revue ou maison d'édition, sur le space opéra. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'écrire une nouvelle de space opéra, parce que c'est quand même vraiment très très cool le space opéra, et on n'en lit pas si souvent à l'époque. C'est revenu depuis. Et je me suis posé un peu et je me suis dit, bah, en fait, non, je vais faire un truc plus gros. Et il y avait un truc que je voulais faire, c'était. Mais ça faisait longtemps que je tournais autour, parce que dans mes nouvelles, il y a des trucs comme ça. C'était genre des princes et des princesses de Corneille et de Racine, quoi. Dans l'espace, avec des vaisseaux spatiaux géants. Et puis voilà. Et puis donc du coup j'ai post-rationalisé et ça prend 900 pages pour post-rationaliser un truc aussi tendu. Et donc voilà. Et puis ensuite j'ai mis quelques années à l'écrire et ça a été un long fleuve tranquille d'écriture pendant lequel j'ai rien publié. Je suis pas venu aux conventions de science-fiction ni au salon.
Alors la genèse de Metakin est un petit peu. Pardon ? Droit dans la sucette. Droit dans la sucette. Ça mieux comme ça. Voilà. La genèse de Metakin, ça s'est passé de la façon suivante. J'étais en train d'écrire une nouvelle sans trop de conviction et j'avançais pas. Je me heurtais à des problèmes, je dirais, de style essentiellement. Je trouvais que c'était lourd, que les personnages. Il y avait ce discours indirect. Je décrivais un personnage à la troisième personne. Et péniblement, j'avais des formules comme « dit-il »,« répondit-il », et puis je décrivais le personnage d'une façon indirecte. Et puis j'en ai eu marre. Et tout à coup, il y a un personnage qui a commencé à parler à la première personne, comme ça un peu dans ma tête, dans mon imagination. Et c'était un gamin d'une dizaine d'années, et ce gamin s'appelait Régis, et je savais qu'il avait des difficultés à l'école, et qu'il allait probablement devoir être traité avec une molécule qui rend les enfants dissipés à l'école beaucoup plus stables et socialement acceptables. Et cette perspective pour cet enfant m'a tout à coup interpellé. Comme ça, bien entendu, j'ai pensé à la ritaline, cette molécule qu'on donne aux enfants qui souffrent d'hyperactivité. Et comme c'est aussi mon métier, j'en savais un petit peu quelque chose. Je savais également toutes les controverses qu'il y avait autour de ce médicament. Mais sur le moment, je n'avais pas encore tout cela en tête. J'avais surtout cette voix qui parlait comme ça. Et puis, je laissais parler. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de dit-il, de fit-il, etc. Ça a été les « je ». Et cet enfant a commencé à s'exprimer. Puis, un autre personnage qui était sa mère, un autre personnage qui était son père adoptif. Il y a la voisine du dessus qui s'y est mise. Et puis, finalement, le fabricant du médicament, le super manager qui fait la promotion du médicament, etc. Et Metakin est un peu parti comme ça. Donc, je dirais, le déclencheur du roman, ça n'a pas été un projet particulier, ça a été une stimulation, une incarnation de personnage dans mon imaginaire. C'est comme ça que ça a démarré.
Alors, on peut parler peut-être de ce qui a nourri vos romans. Est-ce que c'était un processus long?
J'ai relu un certain nombre de textes que j'avais pu écrire, par exemple, pour la revue Brin d'éternité, qui est une revue québécoise, dans lequel j'avais fait aussi mes premières armes en écrivant des textes, science-fiction et philosophie. Il y avait un texte qui s'appelait Marx, le sexe et les robots, qui était sur le bouquin de Philippe Curval, l'Auteur Blues. Alors, c'était tout le sujet de voilà, c'est quoi la sexualité des robots, comment est-ce qu'on fait une psychanalyse d'un robot, etc. J'avais écrit un autre texte qui s'appelait Descartes regardant Goldorak à la télévision. Et ça, c'était sur tout le sujet de comment est-ce que les questions de l'incarnation, de la conscience et de son lien avec la cybernétique. Alors ça mettait en scène Descartes assis à côté de vous en train de regarder Goldorak à la télévision. Quoi. Bah, bref, et donc du coup, je me suis rendu compte a posteriori que j'avais pas mal travaillé des sujets qui se sont trouvés dans mon roman. Et donc il y a eu deux couches. Il y a eu une couche très esthétique, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. J'avais envie de faire un space opéra qui puise dans un matériau un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, qui en fait vient du monde anglo-saxon, et nourri d'un certain nombre de choses qui tournent autour de l'Antiquité. Donc on reconnaît des items qui sont ceux du... ceux du peplum, mais qui sont communs avec le peplum et qui en fait ne sont pas cette antiquité-là, sont la façon dont on voyait l'antiquité ou dont on a mis en scène de façon fantasmée l'antiquité au XVIIe, XVIIIe siècle en France, et qui sont la mise en scène de l'antiquité par le théâtre classique français, grosso modo. Donc c'est noblesse, honneur, problématiques qui sont celles de la contrainte morale, exprimées à travers une relecture des textes classiques. Donc ça, j'avais très très envie de faire un truc comme ça. Et donc je voulais des personnages latins, des personnages grecs, des personnages en toge, des princesses tragiques, des sacrifices ultimes, des trucs comme ça. Et ça, il fallait le post-rationaliser, c'était un peu compliqué, parce que pour arriver à justifier le fait d'écrire du space opéra avec ça, pas facile. Donc en rétro-engineering, j'ai reconstruit. En fait, c'est pas notre futur, c'est une uchronie. En fait, il y a plus d'humains. En fait, c'est des intelligences artificielles géantes, parce que sinon, pas de raison qu'ils aillent avoir des romances dans l'espace, etc. Et donc, il y avait cette première couche. Il y a une deuxième couche. C'était peut-être un peu plus ludique. Moi, je suis agrégé de philo de formation. Donc c'était comment est-ce que je peux faire prendre tout ce matériau qui est celui de la philosophie classique, y compris de la philosophie antique, ou de la façon dont la philosophie antique a été réinterprétée à la même époque qu'en est Racine, par exemple par Descartes, puis Leibniz, etc., pour en faire une espèce de matériau ludique, qui sonne un peu, qui fonctionne un peu comme les langues imaginaires dans d'autres romans, quoi. Comme l'elfique chez Tolkien, les trucs des extraterrestres dans Star Trek, là on comprend jamais ce qu'ils disent, mais ils ont l'air méchants. Le Klingon, voilà. Donc le grec et le latin comme Klingon. Bon, c'est bon. Et donc de multiplier les références en mettant un très grand nombre, avec pour but à un certain moment de créer un effet de vertige pour le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur sente qu'il y a tout un tas de trucs, de contextes, d'arrière-monde, etc. Il y en a trop pour une lecture normale. Et donc, alors il y a des lecteurs très 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 sophistiqués. C'est un peu comme ça que fonctionnent les romans sans aucune comparaison n'est pas raison, hein, mais c'est un peu comme ça que fonctionnent les romans, comment il s'appelle, Umberto Eco. Umberto Eco, c'est, il y a 50 000 couches, et puis quand on est un spécialiste de la linguistique et de la sémiotique, c'est hyper drôle, Umberto Eco. Mais moi j'ai lu Umberto Eco, ça m'a pas fait marrer, mais j'ai trouvé ça passionnant, parce qu'on a une espèce d'impression de densité. J'ai essayé de faire un truc un peu comme ça. Et donc du coup, il y a des références que je prends très sérieusement et que je décortique, par exemple tout ce qui tourne autour de la conscience, etc., où je pose des questions un peu sérieuses. Et ensuite, il y a tout un espèce de capharnaüm philosophico-conceptuel où je vais aller chercher, et sur lesquels je brode de façon un peu délirante, quoi. Et donc, c'était marrant. La Fiam est un bouquin à ne pas prendre au premier degré.
Donc, si j'ai bien compris, les sources du roman. Comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas répéter, le fait est que je travaille en milieu hospitalier, et une de mes fonctions est de faire un choix de préparer des dossiers pour une commission qui se prononce sur les choix médicamenteux dans un collectif d'hôpital. Ça, c'est la réalité, c'est mon métier. Et dans ce domaine-là, j'étais très souvent confronté, je dirais, aux balivernes et aux, de l'industrie pharmaceutique. Il faut toujours remettre un peu, une part de science et d'objectivité dans ce qui est la propagande de l'industrie pharmaceutique. Là, j'en parle d'une façon un peu négative. Il est évident que, heureusement, dans un certain nombre de cas, la documentation et les affirmations de l'industrie sont quelque chose de fiable. Mais il faut toujours vérifier, parce qu'on sait, on a vu les scandales dans les médias, qu'il y a quand même une certaine dérive. Alors, pour les ressources dramatiques du roman, j'ai concentré sur une seule industrie un petit peu toutes ces manigances. Et ça m'a permis de mettre un petit peu en scène ce qui est mon quotidien. Ça, c'est la partie la moins science-fiction du roman. Après, j'ai donné à mon médicament miracle des propriétés qui dépassent de loin ceux de la ritaline ou d'autres médicaments psychotropes auxquels on aurait pu le comparer. Par exemple, la métaquine, plutôt que si on la compare à la ritaline, ne se fait pas que calmer les enfants hyperactifs, mais elle va les rendre objectivement plus intelligents. Ce qui va se passer ensuite, c'est que les profs, voyant qu'ils ont affaire tout à coup à des classes de petits génies, parce qu'évidemment tous les enfants sont sous métaquine ou presque, disent on ne peut pas faire autrement que d'en prendre. Alors eux aussi en prennent. Les enfants rentrent à la maison avec des bulletins scolaires faramineusement éblouissants. Les parents voyant ça, mais il faut ça pour grimper dans les échelons de mon entreprise et obtenir des avancements, etc. etc. Finalement, toute la société s'y met. Et puis, ce fait-là, cette extension du premier jet, de la première idée du roman, fait que je me suis intéressé finalement à toute une société. Et plutôt que d'être manichéen et dire d'un côté vous avez des affreux empoisonneurs et de l'autre côté vous avez de pauvres victimes, j'ai posé la question en termes d'offre et de demande. On a d'un côté un médicament une industrie qui promet des améliorations faramineuses, et de l'autre côté vous avez quand même une population qui espère dans le médicament, qui place dans le médicament des espoirs fous. Cette offre et cette demande rend le roman nettement moins manichéen. Les personnages qui vivent soit pour, soit contre le médicament, pour être court, eh bien, ils vont pouvoir prendre position et donc ils vont se nuancer, ils vont se rencontrer, ils vont s'affronter. Et ça, c'est le point de départ. Après, il se passe plein d'autres choses. Comme si ça se passe dans un futur proche, il y a plein d'autres innovations techniques, d'autres faits d'actualité, d'autres phénomènes plus ou moins compréhensibles qui se mettent de la partie. On va parler ordinateur quantique, on va parler phénomène de foule, on va parler lanceur d'alerte, etc. Donc c'est tout un contexte sociétal qui se met en place autour du roman. Et à mesure que j'entre dans ces différents domaines, eh ben, je me documente et j'essaye de dire des choses qui sont toujours, que j'espère, toujours non contradictoires par rapport à ce que peut dire la science et les connaissances actuelles. Donc j'essaye toujours de rationaliser et de rendre crédible, vraisemblable les différentes inventions que je mets en scène. Voilà un petit peu la façon dont je procède j'ai procédé pour l'écriture du roman.
Vous avez mentionné, Romain a mentionné la philosophie. Expliquer un petit peu comment tu l'as utilisée dans ton roman. Pour approfondir un petit peu, c'est pas important que vous aviez tous les deux échangé autour de Leibniz, notamment. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi?
J'ai pas conçu la SIAM comme un... Attends, je sais pas si je dois le dire ici, en fait. J'ai pas conçu la SIAM vraiment comme un roman de science-fiction, en fait. Je me suis amusé à, comment dire, développer... Peut-être que je ne sortirai pas vivant de la 44e convention de science-fiction, du coup. Je me suis amusé à développer des explications complètement farfelues à la place d'items qui sont des items classiques de la science-fiction. Donc ça, c'est la barre de jeu. Par exemple, classiquement, dans tout roman de science-fiction de space opéra qui se respecte, il y a une question, c'est comment est-ce qu'il voyage plus vite que la lumière? Réponse, bien sûr, alors vous avez deux écoles. Une école qui dit, bon, bah, voyager plus vite que la lumière, donc ce roman a duré 4000 ans, c'est une arche civilisationnelle qui vogue vers Proxima du Centaure, voilà, c'est classique. Puis vous avez une autre école qui consiste à dire « Ah, c'est un trou de ver quantique, machin, etc. » Voilà, il suffit d'ajouter quelques mots et puis on comprend rien. Et donc moi, je me suis amusé a à dire, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Les vaisseaux spatiaux dans la SIOM, qui sont des gigantesques intelligences artificielles, enfin l'incarnation de gigantesques intelligences artificielles, ils ont un truc qui s'appelle à l'intérieur une petite intelligence artificielle, qui s'appelle un modulateur monadique, et qui est une sorte d'intelligence artificielle leibnizienne, donc qui s'inspire de Leibniz, et qui fait une espèce d'équivalent futuriste du calcul différentiel. Et c'est des êtres qui sont absolument incapables de bouger eux-mêmes, ils ont aucune capacité d'action de proximité, ils peuvent rien faire, mais ils sont capables de changer les choses à distance, donc de changer le monde à distance. Pourquoi ? Parce que, comme chacun sait très bien, Leibniz décrit le monde comme un ensemble de monades qui sont des atomes, non pas physiques, mais psychologiques. Et donc, ce que je raconte ne veut rien dire. On est bien d'accord. Enfin, ça veut rien dire. Ça veut sans doute dire quelque chose chez Leibniz, mais ça veut rien dire dans ce cas-là. Et simplement, c'est le même discours pseudo quelque chose que dans la science-fiction habituelle, quand on raconte comment est-ce qu'on va plus vite que la lumière. Sauf que là, c'est de la pseudo philosophie ou de la pseudo métaphysique au lieu d'être de la pseudo science. Et donc, il y a pas mal d'items comme ça où je m'amuse vraiment. Et donc, au lecteur de démêler ce qui renvoie. Il y a des trucs qui sont très sérieusement scientifiques dedans. Enfin, je veux dire. Quand j'essaye de décrire la façon dont fonctionne l'accélérateur de particules qui produit de l'antimatière, c'est presque sérieux. Quand je décris le modulateur magnétique, c'est complètement délirant. Et j'essaye d'entremêler les deux, et c'est une espèce de jeu qui consiste à prendre des items de la science-fiction, qui sont des items dont les lecteurs, moi le premier, sommes familiers, voyage, toute la lumière, intelligence artificielle, etc., et à rendre ça totalement délirant, par l'utilisation, effectivement, de la métaphysique comme objet d'un jeu, quoi. Comme objet d'un jeu. Et ça, c'est une manière de... Je sais pas comment dire. C'est une manière de mettre à distance. C'est une manière de reprendre de manière ludique. C'est une manière d'injecter un certain nombre d'items culturels qui sont pas traditionnels dans la science-fiction, parce que, quoi qu'on dise, la space opera... Enfin, space opera... Quoi qu'on dise, le space opera est d'abord un genre anglo-saxon. Et donc, c'est pas un genre qui se réfère à des contenus culturels continentaux, au sens très large du terme, français, espagnol, italien... grec, de la Grèce antique, etc. Voilà. Et donc ça, c'est une première sorte d'utilisation. Et ensuite, il y a une autre dimension qui n'est pas du tout, pour le coup, de l'utilisation, qui est, mais ça qui renvoie plutôt à mon propre parcours biographique, qui est comment j'utilise de la science-fiction, je vais essayer de ne pas être trop long là, comment j'utilise de la science-fiction pour poser un certain nombre de questions. Pourquoi ? Parce que le propre de la science-fiction, de mon point de vue, j'ai écrit quelques petits textes là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on fait de la science-fiction ? Parce que la science-fiction, c'est un outil de décalage. C'est un outil qui permet de transformer un certain nombre de paramètres de la réalité. C'est un jeu assez sérieux qui consiste à dire, bah, voilà, à partir de maintenant, on est très loin dans l'espace, et puis il y a 3-4 trucs qui sont fondamentaux qui changent. Et de voir ce que ça révèle de la réalité. Donc qui se passe de côté expérience de pensée. Et cette expérience de pensée, par exemple, c'est prendre des intelligences artificielles, les doter d'un certain nombre de lois morales, mais qui sont des lois programmées, et puis se dire, voilà, on voit bien la différence avec des humains, et c'est ça qui révèle quelque chose sur ce qu'est l'éthique, la morale, la liberté, le libre arbitre, etc., chez l'homme. Et donc ça, c'est un jeu philosophique, en fait. Et donc il y a aussi cette dimension-là. Évidemment, il y a des rapports entre les deux, c'est-à-dire il y a un moment où je vais utiliser Platon pour l'un, et puis pour une réflexion un peu sérieuse. Il y a de temps en temps des réflexions un peu sérieuses dans la SIAM. Et puis, je vais aussi utiliser Platon pour aller chercher tout le baratin métaphysico-machin qui ne manque pas chez Platon, en fait. Hein. Il y a un court chemin vers la vérité. Est-ce que c'est les mathématiques ou est-ce que c'est l'intuition et tout. Et ça, c'est très, très marrant. Bon, en tout cas pour moi. Voilà. Donc je joue tout le temps avec ces deux usages et il y a un petit rapport dialectique entre les deux, puisque l'idée, c'est que le lecteur, y compris moi-même, quand je regarde à nouveau mes textes, ne sache pas très bien où on est, si on est dans du sérieux, du pas sérieux, si on est en train d'expliquer quelque chose de très important ou en train de déconner complètement. Et c'est vraiment quelque chose, un moteur ludique de production littéraire qui me semble important, enfin, en tout cas de mon point de vue.
J'aime bien ce côté jeu, expérience de pensée, que j'ai essayé de pratiquer peut-être d'une autre façon. Reprenons l'exemple de Leibniz, puisqu'il se trouve qu'on a tous les deux, c'est tous les deux inspiré de Leibniz pour nos créations respectives. Leibniz, chez moi, pas tellement intéressé sur le plan de sa monadologie, mais sur un autre thème. En un mot, il existe en physique actuelle un débat à propos du principe anthropique,
qui dit que l'univers, finalement, il est prêt, il a l'air formaté à la constante, la énième décimale de toutes les constantes physiques avec lesquelles travaillent les physiciens pour étudier aussi bien l'infiniment petit que l'infiniment grand. Toutes ces constantes sont adaptées pour finalement, on changerait une toute petite décimale de la moindre de ces constantes et la vie ne serait donc plus possible dans l'univers et l'homme ne pourrait pas apparaître, n'aurait pas pu apparaître. Et cette idée de réduire, enfin de se concentrer sur cette notion physique que l'univers est formaté pour l'être humain, a quelque chose qui rappelle ce que disait Leibniz à propos du meilleur des mondes. Ça c'est la Oui. Attends, j'y arrive. Alors,
c'est le principe de la représentation.
Oui. Alors, c'est vrai que Leibniz, quand il dit le meilleur des mondes, effectivement, on peut penser qu'il y a des mondes parallèles ou des mondes. Alors, ça, Leibniz ne parle pas de monde parallèle, pas dans la partie de sa philosophie où il débat de ce problème-là. Il en parle à d'autres moments de son, à d'autres passages de son œuvre, mais dans son livre qui s'appelle Essai de Théodicée, il y a une sorte de parenthèse centrale où il fait vraiment œuvre d'écrivain de science-fiction et il dit voilà, on pourrait imaginer que l'univers se visite comme un vaste palais et que dans ce palais, chaque chambre correspond à un univers possible. Et puis il introduit une espèce de notion de pyramide, que le haut du bâtiment, tout au sommet, il y aurait une pièce idéale qui serait le monde réel auquel Dieu a donné une réelle existence. Et puis dès l'étage en dessous, ça se dégrade et les mondes deviennent de plus en plus dégradés à mesure qu'on descend vers le bas de la pyramide. Et ça m'a beaucoup parlé parce que ça m'a rappelé un peu ce principe anthropique de certains physiciens qui disent, ben voilà, on a un monde qui est formaté pour nous et puis en dessous on a des mondes beaucoup moins qui, si on changeait quoi que ce soit, ben il n'y aurait plus tel élément, telle condition permettant la vie, ou même de la formation des étoiles, ou même la proportion, etc. Et il y a la notion de monde plus ou moins dégradé, et moi ça m'a beaucoup parlé, cette notion là et puis comme Romain a fait dans son roman, il a pris ça comme un jeu. Moi, j'ai fait parler un fou. Dans mon roman, il y a un personnage qui est un peu dérangé, qui a des obsessions comme ça, qui lit des trucs sur Internet et puis après qui les resserre n'importe comment. Mais lui se pose comme un espèce de Leibnizien qui dit on vit dans le monde le meilleur possible, le principe anthropique, etc. Et puis il introduit dans le roman une notion philosophique qui va permettre de réfléchir après sur les destinées des différents personnages. Chacun va se poser par rapport à ces théories qui paraissent un peu délirantes. Il va devoir se positionner. Et ça me permet d'aborder des questions peut-être plus sérieuses, et comme le fait d'ailleurs Leibniz avec son conte philosophique de la pyramide des possibles, eh bien j'essaye avec ma fiction de faire une sorte de réflexion sur le destin, sur le pourquoi est-ce qu'il y a des conditions de vie, des conditions d'existence qui sont plus favorables à la vie, à l'humanité, mais aussi finalement à la chance, au niveau social, au niveau de l'évolution, au niveau de l'avenir de l'humanité, pourquoi est-ce qu'il y aurait plutôt telle forme d'avenir plutôt que telle autre, etc. Donc toute cette réflexion sur le monde qu'on dit réel et le monde des possibles. Et ça m'est apparu comme un terrain de jeu extraordinaire avec lequel j'ai beaucoup joué dans mon roman.
Je vais juste un élément supplémentaire. Leibniz était totalement barré. Et ça, c'est assez important pour comprendre le contexte d'utilisation de Leibniz par des auteurs de science-fiction. Trois anecdotes pour l'illustrer. Il écrivait régulièrement des lettres à des académies des sciences en Allemagne pour leur expliquer qu'il avait, par exemple, vu un chien. Alors à l'époque c'était comme ça, il avait rencontré un chien qui parlait 300 mots de français. Et il avait croisé un cerf qui avait des des lianes qui lui poussaient sur la tête. Donc ça faisait une espèce de cerf avec des dreadlocks, comme ça, il le dessine et tout, il envoie ça. Donc c'est deux lettres différentes. Puis à chaque fois, les mecs, ils sont gênés, parce que quand même, si ce n'était pas ce courrier qui nous étonne beaucoup, enfin cette nouvelle qui nous étonne beaucoup, mais que nous ne croirions pas si elle ne provenait de notre estimé collègue Leibniz, qui était déjà reconnu comme un génie universel, qui a inventé une bonne partie de... Des concepts d'épidémiologie, de détection avancée, l'idée que chaque médecin rapporte les cas d'épidémie qu'il rencontre, enfin de maladies épidémieuses, je ne sais pas comment on dit, enfin de risque d'épidémie. Et puis donc quand on centralise, on se rend compte qu'une épidémie va commencer. Donc ça c'est une notion de Leibniz. C'était aussi un diplomate, c'était aussi, enfin, c'est un métaphysicien, c'est un mathématicien, voilà, mais complètement fou. Et avec une absolue absence de bon sens. Il a écrit une lettre à Spinoza en lui disant, Spinoza qui passait toute sa vie à écrire de la métaphysique panthéiste, à lui dire, alors j'ai une solution pour vous, je sais que vous avez des problèmes financiers, je vous propose un poste à l'université, il suffit que vous arrêtiez de parler de métaphysique et de théologie. Réponse de l'intéressé. Bah non. Autre exemple, il envoie une lettre à Bossuet en lui disant « J'ai réfléchi, cette histoire de catholiques et protestants, en fait, il suffit qu'on réécrive la Bible et c'est bon. » Bah non. Donc voilà, donc Leibniz, c'est aussi un personnage comme ça, et en effet, il y a un espèce de... C'est un espèce d'une... Ce qui décrit... Enfin, c'est un philosophe très sérieux, c'est-à-dire il part d'un problème qui est le problème qui est légué par Descartes, qui est celui de la causalité entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire vous posez l'existence de l'esprit, vous posez l'existence du corps, et ensuite vous ne savez pas comment l'un anime l'autre, et comment l'autre agit sur l'un, puisque c'est des substances différentes. Bon, c'est le gros problème de la philosophie et en fait de la science à cette époque-là. Et donc il y a plein de solutions, la solution de Spinoza, la solution de Malebranche, etc. Celle de Leibniz, c'est dire... s'il y a deux substances différentes et qu'on ne sait pas les faire interagir, c'est qu'en fait, il n'y en a qu'une seule, et cette substance est spirituelle. Et donc, le monde est spirituel. Et donc, le monde fonctionne bien, parce que c'est comme une gigantesque horloge qui aurait été réglée par Dieu, une horloge spirituelle, réglée par Dieu depuis le début de la création du monde. Et donc, c'est la meilleure, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le meilleur équilibre entre variété et simplicité. Ça fonctionne parfaitement, et donc c'est ce qui fait que, en fait, vous ne bougez pas votre bras, c'est vous pensez que vous bougez votre bras, et en même temps votre bras bouge, parce que Dieu a tout réglé à l'avance de façon à ce que ce soit parfaitement synchronisé. Le monde est une gigantesque horloge où tout est synchronisé.
Une gigantesque arnaque aussi.
Et une gigantesque arnaque aussi. et donc, comme tout est synchronisé comme ça, et donc pour que tout soit synchronisé comme ça, il faut que le monde entier soit fait de minuscules billes qui ne sont pas des atomes, qui sont des monades, c'est-à-dire des substances spirituelles. Et donc, toutes ces monades, elles sont toutes réglées les unes par rapport aux autres pour toutes agir en même temps. Voilà. Elles ne communiquent pas entre elles, donc c'est vraiment comme des pièces d'horlogerie qui seraient montées à l'avance et qui bougeraient toutes en même temps et qui donneraient l'impression qu'elles bougent de façon coordonnée. Elles ne sont pas coordonnées. Et donc, chaque monade, puisqu'elle est réglée pour être parfaitement en adéquation avec les autres, chacune exprime le reste du monde. Et donc, en regardant chacune des monades, on peut déduire l'intégralité du reste du monde. Donc, il y a une espèce de truc complètement délirant comme ça.
Oui, je voulais juste ajouter à propos du génie de Leibniz c'est la conception qui pourrait être presque atomiste dans le sens réduction en petites unités. Mais Leibniz a quand même introduit, il y a une controverse à l'échelon européen entre tous les intellectuels de l'époque sur l'invention du calcul infinitésimal. Qui de Newton ou de Leibniz a inventé le calcul infinitésimal? Alors il semble que, enquête faite, historien, etc., que Newton était quand même le précurseur, mais que Leibniz, sur le plan de la formulation, il s'en est quand même mieux tiré. Donc, mais pour dire, Leibniz a cette notion d'unité comme ça, très, très finalement discrète, de quantité, de petites unités, de petits mondes fermés les uns sur les autres, mais en même temps, il invente le calcul infinitésimal qui est une sorte d'unification. Donc, c'est un penseur, je dirais... toute catégorie, comme on parle d'un champion toute catégorie. Il a une capacité alors ça, c'est très inspirant pour les écrivains de science-fiction, parce qu'il y a sa part dans plein de directions et il y a énormément de choses à inventer et à prolonger en matière de Leibniz. Je voulais juste dire encore quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage du philosophe Guy Lardreau qui s'appelle Science-fiction et fiction philosophique et science-fiction. C'est, à mon avis, un des meilleurs livres écrits sur les rapports entre la science-fiction et la,
la philosophie. Et dans ce livre, Lardrault fait une large place à Leibniz. Et il montre de nombreux parallèles entre la pensée de Leibniz et la science-fiction. Si vous vous intéressez aux deux domaines, je vous conseille vivement d'aller puiser chez Lardrault des sources d'inspiration des idées de science-fiction et des idées philosophiques à la fois.
On va peut-être arrêter d'hijacker le pauvre modérateur.
On est parti loin dans ce qui vous a nourri dans vos romans. On va revenir un petit peu directement sur les romans. J'avais pensé vous poser une question sur purement d'écriture, là, cette fois, sur un passage qui vous aurait posé vraiment beaucoup de problèmes à écrire, à concevoir. Est-ce que vous avez eu ça à un moment donné?
Alors, moi, j'ai eu un énorme pépin avec les batailles spatiales. Bon, si on écrit un space opéra, il faut des batailles spatiales. Bah oui, non. Bon. Et alors le truc, c'est que les batailles spatiales, alors vous avez plusieurs façons de les traiter. Globalement, ils sont sur un vaisseau spatial, c'est un peu comme un bateau, un galion du 18e siècle, 17e siècle, 18e siècle. 18e siècle, il y a un capitaine qui crie des ordres et puis les matelots tournent les canons au bon endroit pour dire bon, ça marche pas du tout, c'est hyper chiant. Et en même temps, Donc ça, c'est nul comme solution. Ensuite, on se met en point de vue externe et donc on décrit ce qui se passe de l'extérieur. Donc là, il manque complètement la dimension de sensibilité ou de... ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les personnages réagissent à ce qui se passe, leur peur, leur courage, leur machin, etc. Mais du coup, quand vous décrivez leur peur, leur machin, leur courage, vous perdez la vision d'ensemble. Donc, et alors vous vous dites ensuite, pourquoi est-ce que je ne ferais pas des batailles spatiales où les personnages ne comprennent rien, un peu à la Tolstoï, là, dans Guerre et Paix, comprend rien, le mec il est perdu, là, personne ne comprend rien à la bataille, tout le monde est perdu, et puis voilà. Donc là, vous faites une espèce de bouillie, tout le monde n'est pas à Tolstoï, vous faites une espèce de bouillie infâme. Et donc j'ai écrit des séries de... Il y a 3-4 grandes batailles spatiales dans mon roman, qui prennent des pages et des pages. Si vous n'aimez pas les batailles spatiales dans le space opéra, ne lisez pas ce roman. Et donc à la fin, quand j'ai eu terminé de faire la deuxième version de mon truc, je me suis dit en fait, et j'ai eu une idée, je me suis dit en fait je vais faire un truc, je vais dire que quand il y a une espèce de mode bataille spatiale dans mon vaisseau spatial géant, alors le vaisseau spatial géant, il faut savoir, c'est une intelligence artificielle qui gère tout le vaisseau spatial, et dans laquelle il y a plein de petites intelligences artificielles. C'est une espèce d'écologie d'intelligence artificielle. C'est un peu Leibniz.
Sous fragmentation.
C'est comme dans le. Tu sais que là, quand il dit si on rentrait dans une conscience comme dans un moulin, on n'y verrait pas. Enfin, tu vois, dans les nouveaux essais sur l'entendement humain. Bon. Et donc il y a plein de petites. Alors dans le cas qui nous occupe, c'est une intelligence artificielle qui a renoncé à être l'intelligence artificielle qui gère tout le vaisseau spatial pour être genre une parmi d'autres, parce que voilà, il est libéral. Et il y a plein d'intelligences artificielles dedans qui se coordonnent plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Et ils ajoutent à ça des hommes chiens. Je vous dévoile pas l'intrigue, mais c'est comme des humains mais en mode canin, parce qu'ils peuvent faire des trucs que des intelligences artificielles peuvent pas faire. Donc tout ce beau monde doit se coordonner pour faire une bataille spatiale, quoi. Et ils ont face à eux une menace terrible, imminente, enfin, voilà, niveau bataille spatiale. Et là, je me dis, voilà, ce qui va être sympa, c'est qu'en fait, ils vont tous être intégrés dans un fluide panpsychique, quelque chose qui arrive très fréquemment, en boîte de nuit, par exemple. Ce fluide panpsychique, c'est une espèce de méta-conscience artificielle qui regroupe toutes les consciences de toutes les personnes à bord. Toutes les personnes à bord, ces personnes peuvent être des intelligences artificielles anthropomorphes, des intelligences artificielles non-anthropomorphes, des hommes-chiens, et même un cyborg qui se trouve là, qui est le personnage principal, qui s'appelle Plotine. Et ils vont partager, à un certain degré, une espèce de fusion des consciences. Et donc, il y a un niveau 1, c'est genre, on partage un peu d'informations, mais on reste quand même... éclaté, il y a un niveau 2 où on fusionne plus, puis il y a un niveau 3, mais on ne l'expérimente pas, mais il est juste évoqué pour exciter un peu le lecteur, ou l'imagination du lecteur. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On injecte dans cette espèce d'intelligence artificielle collective l'espèce de fureur guerrière des hommes-chiens, avec des crocs et tout, l'espèce d'instinct guerrier, et donc ils vont s'amalgamer avec les missiles, et donc je décris une espèce de mélange de... Au final, je décris une espèce de mélange de la bataille spatiale du point de vue du vaisseau spatial comme une sorte d'unité. Il y a des apartés où les personnages ont quand même conscience d'être eux-mêmes
avec un certain point de vue, mais avec une compréhension totale de ce qui se passe, donc ça me simplifie beaucoup de choses. Et puis, de temps en temps, des moments où ils sont, où il y a une adéquation entre les armes utilisées et certains personnages qui vont se fondre dans les missiles, chasser en meute les vaisseaux, les chasseurs, les avions de chasse ennemis, enfin voilà. Et donc, j'ai tout réécrit, mes quatre gros passages, parce que ça fait 200 pages, hein, mes batailles spatiales, ou 150 pages, j'ai réécrit mes quatre batailles spatiales dans ce mode-là. Et j'étais très content de moi. Alors, c'est peut-être... c'est peut-être vraiment à chier, je sais pas, mais moi en tout cas j'étais très très content. Et donc je trouve ça montre assez bien cette histoire de l'utilisation de la philosophie comme aussi comme fatras, comme pièce un peu décorative, parce que il y a un espèce de côté, voilà, il y a encore une référence à Leibniz, etc. là-dedans. Quoi. Mais bon, donc ça m'a pris quand même un an cette histoire.
Alors la question c'était quel était un passage difficile. Passage difficile, oui. Alors, je vais d'abord parler des passages faciles. Donc, je vous ai dit...
Il y a une question après sur ça.
Ouais. J'ai donc écrit sous la dictée du personnage qui était apparu au début de l'écriture du roman. J'ai écrit 25-30 pages. Et puis tout à coup, il m'est venu l'idée de la fin du roman. Et j'ai écrit 25 pages de fin. Et entre deux, il y a eu 800 pages de passages difficiles. Voilà. Ça a été un petit peu ça le problème. Mais cela dit, je trouve que c'est des passages souvent difficiles, ces passages à vide, ces passages de cohérence, comment narrativement rendre l'action cohérente entre tel et tel personnage. Comment ne pas ennuyer le lecteur, comment ne pas perdre des informations en route, etc. Il y a plein de choses comme ça. Et régulièrement, j'ai buté sur des solutions, sur des problèmes qui me paraissaient relativement insolubles. Et là, je ne sais pas si c'est la pratique de d'autres écrivains, mais très souvent, j'arrêtais de réfléchir. Et puis, je me donnais une journée de promenade ou une bonne nuit de sommeil. Et le lendemain, les choses s'étaient mises en place. Et puis, je continuais. Et jamais ce processus ne m'a vraiment trahi. Et puis, c'est comme ça que j'ai un petit peu avancé et que finalement, j'ai franchi ces 800 pages. Je ne savais pas que j'allais écrire 800 pages. Hein. J'ai écrit 800 pages pour pouvoir relier le début à la fin. C'est un petit peu comme ça que se sont mis en place les choses.
Alors, on est toujours dans l'écriture. Je voudrais savoir si à un passage vous êtes particulièrement fier. C'est d'avoir réussi les passages difficiles.
Non. Moi, il y a un passage dont je suis particulièrement content, qui est un truc. C'est le personnage principal qui est un espèce d'entité qui est à la fois un corps biologique et une âme d'intelligence artificielle ou un cerveau d'intelligence artificielle. Dispose d'un espèce de pouvoir de communiquer de manière instantanée avec des intelligences artificielles. Et donc, pour des raisons que je n'expliquerai pas ici, parce que ce serait trop long et ça spoilerait trop le roman, elle a cette espèce de capacité à manipuler les intelligences, les logiciels les plus simples et à leur faire ce qu'elle veut. Et il y a un passage qui est vraiment tout simple, où ce personnage, Plotine, se trouve sur un tout petit bateau en compagnie d'un homme chien en train de traverser une mer intérieure dans la soute du vaisseau spatial géant pour aller d'une île à une autre. C'est des hommes chiens qui sont des personnages homériques, donc c'est voilà, référence constante à la Grèce antique. Et ça se passe de nuit et elle est progressivement hypnotisée par le rythme du bateau. Et c'est un moment de très grande quiétude au milieu de tout un tas de fatras guerriers, d'histoire, de bataille spatiale, machin, etc. Elle est là simplement à imaginer à la fois l'immensité autour d'elle, une espèce d'immensité. Ça renvoie à un concept de littéraire classique qui s'appelle le locus amoenus, le lieu agréable. L'espèce d'invention, on trouve ça beaucoup dans la poésie classique espagnole, par exemple. La poésie comme mode d'invention, d'un mode de création d'un lieu imaginaire, qui est une belle vallée, etc., là où vont se passer des aventures mythologiques. Les tableaux, certains tableaux de l'époque classique sont aussi comme ça, on montre une belle nature. Donc j'ai essayé de faire ça. Et donc il y a un espèce de moment d'apaisement absolu, comme ça, où elle est en train d'imaginer à la fois l'horizontalité de l'élément liquide et sa profondeur. Elle s'imagine en train de couler progressivement, et puis elle
imagine ce que serait son destin si elle se noyait. Et c'est une espèce de réinscription du soi dans un espèce de cosmos. Et sachant qu'on est dans un vaisseau spatial, donc dans une artificialité totale, une espèce de manière de... Voilà, un truc qui s'applique à l'homme moderne. On vit dans un univers artificiel et en même temps, il y a une espèce de besoin de reconnexion avec la simplicité des éléments. Et là, arrive une petite intelligence artificielle sous forme d'un oiseau qui vole extrêmement haut et qui est là pour surveiller ce qui se passe, pour le compte des propriétaires du vaisseau spatial. Et elle l'atteint psychiquement et elle va la convaincre en lui chantant une espèce de berceuse pour intelligence artificielle que je ne vous chanterai pas, mais dont je n'ai pas écrit les paroles car il n'y en a pas. Elle la convainc de, voilà, qu'elle est fatiguée, qu'il est tard et qu'il est temps de rentrer chez soi. Et l'autre ne demande pas son reste et s'en va. Et donc, voilà, et il ne se passe rien d'autre en fait. C'est un moment de très grande simplicité. Alors ça, c'est déjà très très dur à écrire, vraiment très très dur, parce qu'il faut changer de rythme. C'est pas le rythme des batailles spatiales. Et en même temps, on est très très content de l'avoir écrit parce que justement, on essaye de toucher à quelque chose de très simple.
Oui, c'est difficile de dire le passage dont on est le plus fier parce qu'il y a la fierté personnelle. On dit là, on a fait beaucoup d'efforts et puis on est content du travail. Et puis il y a aussi ensuite la rencontre avec les lecteurs. Et je dirais, après, on peut aussi revoir avec le recul de la lecture ce qui a plu ou pas au lecteur et puis rencontrer un deuxième type de satisfaction qui est finalement d'avoir fait plaisir au lecteur sur certains passages du livre, etc. Il y a une chose qui m'a fait particulièrement plaisir, c'est que un des personnages que j'avais décrit comme le plus faible est le plus vulnérable, est le moins, je dirais, participant au début de l'intrigue, en tout cas, c'est la mère du gosse dont je vous parlais, qui est une cybertox, c'est-à-dire une toxicomane, dont la drogue est l'addiction aux jeux électroniques, aux jeux vidéo, appelons-les comme on veut, ou aux jeux de simulation. Et j'invente une pathologie autour de cette addiction et je la fais basculer dans un monde dont elle ne revient pas. Elle a comme perdu conscience, elle a passé, vraiment son esprit a entièrement été happé par le monde virtuel et il ne reste pratiquement plus de conscience dans son corps et elle a basculé dans un état de végétatif. Donc, c'est pas un personnage qui va être particulièrement actif pour sortir les autres héros, à commencer par son fils, des problèmes qu'il rencontre. Et c'est un personnage qui paraît faible et inconsistant. Et j'ai été très content de faire de ce personnage, au fil du roman, de lui inventer un rôle où finalement, elle va jouer un rôle capital vers la fin du roman. Et ce qui a fait dire à certains lecteurs, et ce qui m'a fait plus particulièrement plaisir à certaines lectrices, que finalement j'avais écrit un roman avec des personnages féminins excessivement forts qui contrairement à beaucoup d'autres romans de science-fiction étaient très très forts, très présents, et menaient un peu l'intrigue alors qu'on aurait pu croire comme dans le cas de ce personnage-là que c'était des personnages secondaires ou des personnages à peu près inactifs. Et je leur ai trouvé des rôles où finalement c'est différent, parce qu'il y a d'autres personnages féminins, mais je ne vais pas entrer dans les détails, mais le fait qu'on me dise que j'ai écrit un roman, moi écrivain masculin, j'ai écrit un roman avec des personnages féminins particulièrement forts, je me dis tiens, ça je n'y avais pas pensé, c'est étonnant que j'aie fait ça, et là j'en étais assez content. et si les lectrices l'étaient, je l'étais doublement.
Un point assez marrant auquel tu m'as fait penser. Bon, dans mon roman, le personnage principal est un personnage féminin. Et donc, le roman raconte, un des grands fils de ce roman, c'est la manière dont ce personnage féminin, qui est à la base une intelligence artificielle, devient progressivement un être incarné. Et donc, je me suis cogné tout un truc sur l'incarnation. Donc, ça prend 900 pages, cette histoire. Et avec une problématique qui est particulière, parce que c'est une incarnation...
Il est hanté.
Une incarnation, féminine. Bon, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très spontané quand on n'est pas... voilà. Et quand le roman est sorti, j'ai eu quelques critiques positives, il n'y avait pas eu un seul critique ou un seul blogueur pour signaler ce fait-là. Et pourtant, c'est 60 à 70% du roman, cette histoire. Et donc, tout le monde s'est arrêté sur oh, « c'est une psychanalyse des intelligences artificielles, c'est hyper cool ». Et il y a eu, mais non, mais il n'y a eu aucun, il n'y a eu, pas eu une seule ligne des blogueurs, commentateurs, forumers, etc., j'ai bien lu, sur le fait que voilà, il y a un fil dans ce roman, je suis convaincu d'y avoir mis, puisque j'ai passé beaucoup de temps sur effectivement cette question-là qui est quel est le mode d'incarnation spécifique qui est celui de la féminité. Et c'est, ça relève d'un biais de lecture amusant qui est celui des fans de space opéra, qui, je soupçonne, sont relativement peu féminisés. Voilà.
On a appris pas mal. Après avoir écrit des romans comme ça, est-ce que vous projetez sur autre chose ou est-ce que c'est difficile? Et ça sera la dernière question.
Ouais, c'est difficile. j'ai vraiment. Alors, c'était mon premier roman aussi. Donc, j'ai vraiment vécu comme une très grosse expérience personnelle. Avec un truc un peu transformant qui a pris des années, etc. Donc, j'ai beaucoup de mal à me projeter sur. L'écriture comme activité non transformante ou non expérientielle. Pour moi d'abord, avant d'être une expérience pour le lecteur, c'est quand même avant tout une expérience pour l'auteur. Et donc du coup, pas tout de suite, parce qu'effectivement, on n'a pas l'idée de faire quelque chose qui va vous changer vous-même toutes les 5 minutes. Et moi j'ai actuellement... J'ai pas d'idée de quelque chose dont je me dirais j'en serais aussi fier que mon roman. Et c'est pas une question de s'il a été bien accueilli, mal accueilli, vendu, pas vendu. C'est vraiment parce que ça a été un cheminement personnel. Et donc, ouais, pas tout de suite.
Et en ce qui me concerne, j'ai à la fois une chance et une malédiction. C'est que je suis à la fois écrivain et illustrateur. Et lorsqu'on a passé 8 ans à écrire un roman, le pôle illustrateur commence à piaffer quelque peu. Donc, dès que Metakin a été édité, j'ai ressenti un besoin de dessiner frénétique et je me suis mis à faire des dessins autour de l'univers du roman. Ça a donné lieu à une exposition qui a été présentée l'année passée aux Utopiales. Il y avait 200 dessins autour du roman. Vous pouvez en voir si ça vous intéresse. Dans le hall, juste là derrière, il y a une douzaine de panneaux qui sont en fait le cœur explicatif de l'exposition de Nantes. Et puis, l'illustrateur n'est pas encore vraiment rassasié de cette compensation et il demande encore... Alors maintenant, je suis sur un projet qui serait un espèce de carnet de voyage dans un monde imaginaire où je marie texte et... mais c'est un projet, hein, texte et images avec des techniques différentes, mais conçues comme un carnet de voyage. Où je me promènerais en touriste qui réfléchit et qui vit des aventures personnelles, mais un touriste qui simplement fait des dessins pour raconter ce qu'il voit et ce qu'il vit dans un monde. Donc c'est pas une BD, c'est plutôt carnet de croquis de voyage. Et puis un autre projet plutôt littéraire, mais que j'ai un petit peu laissé de côté, mais auquel je vais certainement revenir, c'est un nouveau roman sur le thème, je pense, du hasard. Qu'est-ce qui se passe si la notion de hasard, qui est finalement considéré le hasard pour toutes les sciences, c'est quelque chose de très stable, hein, sur lequel on assied toutes les statistiques, tous les calculs de probabilité, etc. Qu'est-ce qui se passerait si cette notion devenait floue, fluctuante? Et là, sur le plan science-fiction, on peut trouver des applications assez rigolotes. Alors, je ne vais pas encore tout exploiter, mais voilà, ça sera peut-être le prochain roman.
Est-ce qu'il y a des questions du public? Envie de savoir d'autres choses.
Je crois qu'on les a assommés avec la métaphysique technicienne. Là. Ils sont...
Ah non, il y a un survivant là-bas.
Pendant très longtemps, la SF, c'était des nouvelles, des romans courts, des novellas. On avait, hein, et d'un coup, la fantasy s'est mise à faire des trilogies, des quadrilogies, plus de nom, des 800, 900 pages. Et je me demande pourquoi, qu'est-ce qui pousse maintenant des auteurs de science-fiction, ces deux, vraiment de la science-fiction, à écrire des romans d'un coup de 900 pages. Est-ce que...
Vous savez combien de pages ça fait, Dune?
Beaucoup.
Non, mais c'est je pense que honnêtement, c'est consubstantiel au genre de faire... Enfin, je vais vous donner mon point de vue, vraiment. Et c'est...
Moi, j'écris du space opéra. J'ai écrit du space opéra aussi parce que la littérature générale, elle ne me permet pas de faire quelque chose qui est le rapport à l'événement. C'est-à-dire le fait que y a la pratique de la littérature générale en France, je caricature à mort en disant ça, mais c'est pas grave, est une pratique du roman psychologique, ce qui s'explique pour plein de raisons historiques, mais en tout cas, elle est centrée sur ça. Et donc, et probablement aussi parce qu'il y a des raisons historiques, mais c'est très compliqué d'écrire autre chose que du roman psychologique en littérature générale. Ce que je dis est complètement faux, parce que vous avez quelqu'un comme Vincent Message qui écrit de la littérature générale, qui flirte de l'autre côté avec la science-fiction, et c'est de l'événement. Des fêtes des maîtres et possesseurs, c'est pas du tout du roman psychologique. Néanmoins, globalement, j'avais l'impression que c'était très difficile de faire une littérature de l'événement, une littérature de la narration puissante, une littérature de l'épopée. Le monde contemporain ne s'y prétend pas. Voilà. Et donc, la science-fiction, le space opéra s'y prête, et de mon point de vue, il y a une dimension de... dans ce qu'on pourrait appeler un désir de générer de la puissance narrative ou de la puissance épique, il faut de la place, quoi. Il faut de la place pour construire un monde à grande dimension, il faut de la place pour faire du sense of wonder, voilà. Et donc du coup ça génère en effet du 900 pages, mais je pense que la forme longue ou la forme très longue est consubstantielle aussi au genre. Enfin, il y a pas que les nouvelles d'Asimov, il y a aussi les nouvelles d'Asimov, mais il y a aussi Dune, quoi.
En ce qui me concerne, je savais pas que j'allais écrire un tel pavé, donc les choses se sont faites un peu à mesure. Mais cela dit, l'exemple de grands romans comme Dune ou comme certains autres cycles, comme les cycles de Farmer et autres, donne au lecteur cette immersion complète, cette notion de livre-monde, où l'on construit non seulement des intrigues autour de quelques personnages, mais tout un monde, toute une société. Cette fascination-là, je pense que je l'ai gardée. Et puis, c'est un peu l'exemple de telles œuvres qui m'ont fait tenir cette durée, en essayant très modestement de faire un peu dans le même genre. Mais je crois qu'il y a une bonne part d'inconscience. C'est pas vraiment voulu, dans mon cas, d'avoir au départ voulu écrire quelque chose d'aussi volumineux.
Une autre question, sinon.
La question horrible. Bon, je vais essayer de pas trop spoiler quand même, au cas où il y aurait des gens qui l'auraient pas lu dans cette salle. Ouais, alors il y a plusieurs trucs. D'abord, je vais essayer de faire l'équilibre entre j'explique et je spoil, mais bon, c'est pas grave. C'est pas notre futur. Alors déjà, ils ont tous des noms latins. Et pourquoi ? C'était un truc. C'est quand même compliqué à justifier que dans le futur de l'humanité, on se remette à donner des noms latins à des intelligences artificielles. Donc j'ai beaucoup tourné autour du sujet. Je me suis dit, bon, allez, hop, c'est bon. Si ça ne correspond pas à une chronologie logique, il n'y a qu'à changer la chronologie et dire que ce n'est pas notre futur. Donc du coup, j'ai dit, c'est en fait un monde alternatif. Et en fait, l'Asium, ça raconte un espèce de futur très lointain, non pas de notre humanité, mais d'une humanité... on est peut-être dans les délires personnels de l'auteur là, hein, mais d'une humanité où l'Empire romain n'aurait jamais disparu et aurait progressivement conquis le système solaire jusqu'à Mars. Voilà. Et donc du coup, ça explique le fait qu'on soit tout le temps en train de nager dans un univers où la culture des personnages intelligence artificielle, tout bêtement, c'est une culture gréco-latine, à la fois grecque et latine. Première chose. Deuxième chose, les personnages, l'intrigue de l'Asium en fait est un décalque d'une pièce de théâtre de Corneille. Alors je tiens à cette référence à Corneille parce que c'est pas directement l'Antiquité, c'est l'Antiquité comme on l'a fantasmée dans la littérature française. Et cette pièce c'est Othon, dont le personnage, l'un des deux personnages principaux s'appelle Othon, et l'autre personnage principal s'appelle Plotine, et c'est les deux personnages principaux du roman. Après, il y a plein de choses dans le roman de SF, en particulier les batailles spatiales, qu'il n'y a pas dans la pièce de Corneille, mais si vous regardez en pointillé, vous verrez que l'intrigue, en fait, est celle d'Othon. C'est l'histoire d'un chassé-croisé amoureux qui ne s'accomplit pas, parce que les personnages sont totalement vidés de tout sentiment réel parce qu'ils sont obsédés par le pouvoir. Et en fait, le roman ne raconte que ça. Il raconte d'autres trucs, mais c'est ça que j'avais envie de raconter. J'avais envie de raconter comment. Ça, c'est un truc très 17e siècle, quoi. C'est comment soit les logiques de devoir, soit les logiques de pouvoir rendent caduques le sentiment amoureux. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre. J'ai essayé de ne pas trop spoiler tout en répondant. Ça va ? Ah, j'ai répondu à côté, je suis désolé. Si, il y a des temples, ils portent des toges, non mais il y a plein de trucs, hein. Ils bouffent des olives, tous. Non mais je plaisante pas, hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Vous allez retrouver. Il y a juste dans mon première version, j'avais mis une bataille de chars et je me suis dit non vraiment là c'est vraiment trop, quoi. Donc il y a plus de bataille de chars, mais sinon vous allez trouver plein de trucs en mode péplum.
Merci, j'espère que ça vous a plu.